Chers amis, Hachem Alechem Tihyu, et Orech Yemin Tovim et Shanim Ne'imim. Nous poursuivons notre étude sur le Sidour de Tfila. Nous sommes arrivés à Odou. Nous avons fait de Netilat Edaim du lever du matin jusqu'à Yehuda ben Théma Omer. Et là, on conclut l'enseignement de Yehuda ben Théma, la première partie, donc les Korbanot. Olamassi, en récitant un Kaddish. Kaddish des Rabbanan. À présent, nous passons à Odou. Alors, le Odou, qu'est-ce que c'est ce Odou-là? Et qu'est-ce qu'il vient faire ici? Après avoir récité le Kaddish, et la première partie de la Tfila, qui correspond au monde de l'action, Olamassi, on doit s'élever. Ce monde de Asiya, il doit monter, il doit s'élever pour s'emboîter dans le monde supérieur, celui de Yetzira, le monde de la transformation. C'est les psaumes, ils sont au niveau de la transformation, c'est la raison pour laquelle nous les récitons après le Kaddish. Jusque-là, on ne possédait que l'âme primaire, le Nefesh. À présent, on va lui ajouter le souffle. Nous devons bien comprendre que la Tfila, c'est la construction de notre personne. La Tfila elle-même, la tuila de Shachrit, dans ses différentes parties et son évolution, constitue la construction de l'individu. Donc il a l'homme, en récitant les brachot, les korbanot, etc., est en train de recevoir, il suscite les énergies qu'il est en train lui-même de recevoir et se construire dans son rapport à Dieu. Ici, il va se construire par le chant. C'est ce qui caractérise l'homme. C'est le niveau du ruach, la parole. La parole permet, le souffle permet à l'homme de parler. Il est l'essentiel de l'homme. C'est ce qui le caractérise et le définit. Il a donc le pouvoir de dire des louanges à son créateur. Comme nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, les psaumes de David sont qualifiés de mizmor, qui se traduit par chant ou par louange. Mais ce mot ressemble à lismor. Lismor, ça veut dire élaguer, couper, éliminer. Éliminer ce qui est mauvais. Ainsi, les psaumes ont-ils la force d'éliminer les puissances des forces négatives. Le mal-être, c'est ici. Nous verrons à plusieurs reprises, nous essaierons d'expliquer à plusieurs reprises, c'est qu'est-ce que le mizmor. L'homme, de par sa nature, il est tourmenté, il est angoissé, il est faible, il a des inquiétudes sur son devenir, sur sa raison d'être, il cherche la reconnaissance de son entourage, il cherche, il est mal, il se suffit pas de lui-même, il est mal dans sa peau. Et l'exemple type, c'est David. David, il a été chassé de sa famille déjà dès l'âge de 3 ans. Il est envoyé seul dans les montagnes pour garder les troupeaux. Et de 3 ans à 17, 18 ans, quand Shmuel Hanavi vient envoyé par Hachem pour le loin, il est seul dans la montagne. D'ailleurs, quand Shmuel arrive chez Ishaï, il dit « Où sont les enfants ?» Il lui présente les enfants, mais le dernier, il ne le présente pas. Donc, imaginez un enfant qui est rejeté par sa mère, par son père, par ses frères, qui le détestent. Il est jeté seul dans la montagne, il ne voit personne, il est là avec les troupeaux, il garde les troupeaux. Comment peut-il grandir? Comment peut-il se construire? Il est dans l'incompréhension totale. Qui est-il? Que se passe-t-il? Et c'est là que il va porter son oreille, son attention sur ce qui se passe autour de lui. Il va entendre le matin le vent qui souffle, les oiseaux qui chantent, le bêlement des troupeaux, etc. Tous ces bruits-là que fait la nature. Il n'y a pas un homme qui passe là. Il va saisir que tout cela est une symphonie à la gloire du Seigneur. Et lui-même va s'associer à cette louange. Et il va employer, imiter la musique qu'il entend. La musique, cette symphonie, il va l'imiter. Et il va faire, avec sa harpe, de la musique. Et cette harpe-là va lui permettre de s'élever spirituellement. Jusqu'au moment où il va atteindre l'extase et de la prophétie et de dévoilement des éléments spirituels les plus hauts. C'est le sens de Mizmor. Et grâce à cela, il va se détacher de ses angoisses, de ses inquiétudes, de son mal-être, et il va s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Comme il le dit lui-même, « Ki avi ve'imi azavuni, mon père et ma mère, ils m'ont abandonné. » Vachem yasfeni, et c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a pris, qui m'a soulevé, qui m'a pris sous ses ailes, qui m'a formé. Et tous les psaumes ne traitent que de cela. Alors il y a différents psaumes, il y a différents niveaux dans les psaumes, comme nous verrons. Mais le niveau 1, c'est se détacher des angoisses, se détacher des inquiétudes, du mal-être, du tourment. C'est le sens de Mizmor, qui signifie élaguer, couper, éliminer tout ce qui est mauvais. Ainsi, les psaumes ont-ils la force d'éliminer les forces négatives, les puissances négatives, des toumas. C'est ça la touma, qui peuvent amener à la tentation des idolâtres, de l'idolâtre, de l'idolâtrie, ou même... Bon, kfira, parce que quelqu'un qui se sent mal dans sa peau, il est tourmenté, alors il va se détourner de Dieu. Et il va aller s'adonner, chercher des solutions à ses problèmes, ailleurs, chez les idoles, chez les sorciers, chez les diseurs de bonne aventure, chez, etc. Toutes sortes de remèdes. Et il peut aussi essayer de résoudre ses problèmes par les plaisirs de ce monde. Alors il va se mettre à manger. Il va s'adonner à toutes sortes de plaisirs pour fuir l'instant présent. Quand on s'adonne au plaisir de manière, tous les interdits, on se permet tout et n'importe quoi, c'est pour fuir. C'est une fuite, c'est un refuge. Et la fuite, et on n'est jamais satisfait parce qu'on est mal dans sa peau. Donc automatiquement, on peut jamais être soi-même. On n'est pas apaisé. Et c'est cela que David veut nous apprendre à travers le Mizmor. De même que dans tous les dans les temps reculés, l'idolâtrie avait une attraction certaine sur les individus. Aujourd'hui aussi, il y a des idoles qui ont pris des formes nouvelles, des apparences modernes, qui attirent dans leur filet toute la majorité des hommes. Même ceux qui sont aussi au service de Dieu risquent à certains moments de faiblesse, de tomber entre leurs mains. Certains de nos mitzvot peuvent être alors entachés de mauvaises intentions ou d'imperfections, d'un manque de ferveur et de sincérité. Cela risque de les invalider, car elles peuvent alors être repoussées et l'homme peut basculer du mauvais côté. Les psaumes que nous récitons sont la proclamation de la grandeur et de la puissance d'Hachem, ainsi que le plus grand mépris et le plus grand dégoût et le plus profond que nous avons pour les forces mauvaises et leurs tentations. Il convient de les réciter avec concentration, compréhension et ferveur pour que cela puisse faire un effet sur nous en premier et en plus sur l'ensemble de la création. En prononçant le pasouk, El nekamot Adonai nekamot Ophia, Dieu puissant des vengeances, éternel Dieu puissant des vengeances apparaît. Il faut avoir la pensée, en pensée, de récupérer les âmes des 10 martyrs, Rabbi Akiva et les 10 Chachamim. Ils sont descendus au plus bas des mondes pour récupérer toutes les lumières perdues et éparpillées. Comme nous l'avons dit plus haut, ces lumières qui se perdent sont notre énergie, qui n'a pas été canalisée au service de Dieu. Du début de Hodou jusqu'à Baruch Elohim, il y a 295 mots. Le nombre 295, c'est la valeur numérique de Elohim. Aleph, le mot Elohim s'écrit Aleph, Lamed, He, Yod, Mem. Aleph s'écrit toujours Aleph, Lamed, P. Lamed, c'est Lamed, Mem, Dalet. He, c'est deux He. Yod, c'est Yod, Vav, Dalet. Et Mem, c'est deux mêmes, le même redoublé. Cette valeur numérique-là est de 295. Il ne faut donc pas ajouter des mots, parce que l'intention, c'est d'atténuer, de maîtriser, d'apaiser les rigueurs et de les adoucir. À présent, nous allons voir ici à quel moment ce texte a été dit. D'où sort-il? Alors, il faut savoir que ce texte-là est marqué dans les chroniques. Il n'est pas marqué dans Tehillim. Et David Ameler, nous allons voir, on va faire un petit rappel historique afin de comprendre la structure de ce texte. Alors regardez, après la traversée du Jourdain par le peuple d'Israël sous la conduite d'Yoshua Binoun, le Mishkan a été placé à Gilgal pendant 14 ans, durée de la conquête et du partage de la terre d'Israël. Quand cela s'est passé, alors pendant toute cette période, l'arche n'était pas dans le sanctuaire, mais sur les champs de bataille, avec les soldats, puisque l'arche précède dans le champ de bataille. Après la conquête, le sanctuaire est installé dans la ville de Shiloh. C'est ce qu'on appelle Kilobatem Adata Ela Menoha Vela Nahala. Menoha, c'est Shiloh. Shiloh, ça a une valeur de petit temple. Mais Nahala, c'est Bet Amigdash. Combien de temps ça reste à Shiloh? 69 ans. À la mort d'Elia Cohen, Shiloh est détruite et le sanctuaire est installé à la ville de Nov. Quand Shaul détruisit la ville, le Mishkan est installé à Givon. La période de Nov et de Givon est de 57 ans. De Givon, le temple va passer, il va passer au temple de Jérusalem. Alors regardons, dans le livre de Shmuel, Shmuel Alev, il est raconté qu'Israël sortit en guerre contre les Philistins, en un lieu qui s'appelle Even Ha'ezer. Là, ils ont perdu la bataille. Près de 4000 hommes sont morts. Alors, les anciens du peuple se dirent que la défaite est due à l'absence de l'arche, à Aaron HaKodesh, dans la bataille, pendant la bataille. Alors, ils sont venus à Shiloh, ils ont pris l'arche sainte, ils ont pris avec eux les deux enfants de Elia Cohen, Hophni et Pinhas, et ils sont partis combattre les Philistins. Alors, à ce moment-là, tout Israël poussa un cri de grande clameur et la terre trembla. En entendant ces cris, les cris de joie et de ferveur, les Philistins apprirent alors la présence de l'arche sainte dans le camp et ils ont eu peur. Cependant, ils s'armèrent de courage et sortirent à la bataille. Et là aussi, les Bnei Israël ont été vaincus. Et ce fut une terrible défaite, 30 000 hommes périrent, dont les deux fils de Elia Cohen. Les deux, ils sont morts. Et pire, l'arche a été capturée. Il a été capturé par les Philistins. Quand on rapporte ça à Elia Cohen, il tombe et il meurt, il se fracasse la nuque. Nos maîtres imputent cette défaite à la faute des enfants de Élie, qui n'avaient pas un comportement digne, comme c'est marqué dans le prophète. Ils se servaient des viandes avant la consommation des graisses. Et ils ne s'empressaient pas de faire les sacrifices des femmes qui venaient d'accoucher pour qu'elles retournent chez elles. Donc les Philistins, ils se sont emparés de l'arche. Alors ils entra et la transportèrent à Ashdod. Ils la placèrent dans le temple du dieu Dagon, une idole à l'apparence humaine. Le lendemain, ils trouvèrent l'idole étendue sur la face, devant l'arche, et elle était cassée. Ils la relevèrent et la remirent à sa place. Le matin suivant, ils trouvèrent à nouveau l'idole par terre, mais les deux mains et la tête avaient été tranchées. Seul le tronc était intact. Puis de nombreuses catastrophes frappèrent la ville et ses environs. La population décida donc d'envoyer l'arche dans la ville de Gath, Kiryat Gath, qui à son tour fut frappée de même plaie. Ils envoyèrent l'arche à la ville de Ekron, un peu plus au nord, au niveau de Rehovot, comme ça. Dont les habitants refusèrent. Ils ont dit non, renvoyez l'arche de Dieu en Israël, qu'elle retourne dans sa résidence. Ils ont eu peur de mourir. Alors les Philistins, ils se font fabriquer un chariot neuf. Ils attellent deux vaches laitières qui n'ont jamais porté de joug. Et ils placent l'arche et les offrandes d'or sur la charrette. Les vaches conduisirent le chariot toutes seules, et ils ont, jusqu'à Beth-Shemesh. Arrivés au camp de Yoshua, au champ de Yoshua, le chariot s'arrête à côté d'une grande pierre qui va s'appeler Even Ha'ezer. Là, on offrit les deux vaches en holocauste. Mais malgré tout, les gens de Beth Shemesh furent frappés. 70 hommes périrent. Chacun de ces 70 hommes qui meurent était considéré, chacun d'entre eux, comme tout le Sanhédrin. Le peuple fut consterné de ces morts infligées par Hachem. Ils se demandèrent qui peut subsister devant l'Éternel et où l'arche montera-t-elle de chez nous? Comment on va faire? La Gemara dit que les gens de Beth Shemesh, en voyant passer l'âge, ne s'étaient pas arrêtés de moissonner. Ils s'étaient contentés de se prosterner et continuer leur travail. Ils envoyèrent des messagers aux habitants des villes de Kiryat Yearim, disant que les Philistins avaient restitué l'arche de Hachem. Et ils les invitaient à venir à la monter vers chez eux. Les habitants de Kiryat Yearim prirent l'arche et l'installèrent dans la maison de Amminadab. Avinadav, en haut d'une colline, elle y séjourna 20 ans. Dans Shmuel Bet, il est dit, David rassembla l'élite d'Israël, 30 000 hommes, et suivi de tout le peuple, il se mit en marche pour faire venir l'arche de Dieu à Jérusalem. On plaça sur un chariot neuf et on la transporta hors de la maison d'Aminadav sur la colline. Et là, Uza et Ahio, les deux fils d'Aminadab, conduisaient le chariot. Arrivé au lieu de Goren Nachon, Uza s'élança vers l'arche pour retenir, car les bœufs avaient glissé. La colère de Dieu s'enflamma contre Uza et il le frappa sur le bras. Il a été électrocuté. Il mourut à côté de l'arche. Alors, parce que David s'est trompé. David fut consterné du coup dont Hachem frappa Uza. Il appela l'endroit Peretz Uza. La chute de Uza. Selon nos maîtres, cette faute doit être mise au compte de David. C'est lui qui s'est trompé. Il dit comment? Parce que lui, David, il avait dit Zemirot ayouli hokecha. Tu parles des chants de la Torah comme étant un chant. Et il s'est trompé sur une halakha que même les enfants ils savent, que l'arche n'est pas portée sur un chariot mais portée à l'épaule. Donc il lui dit toi, tu as dit que la Torah, c'est comme des chants. Eh bien, sache que tu t'es trompé sur quelque chose qu'un enfant de 5 ans, il sait qu'on ne fait pas ça. Alors, David redouta l'Éternel et dit, comment l'arche de Dieu viendra-t-elle chez moi? Il n'osa pas l'amener l'arche dans la cité de David et la dirigea vers la maison d'Oved Edom à Guiti, un monsieur qui était un tzaddik. L'arche y demeura 3 mois. Et l'Éternel bénit la maison d'Oved Edom et toute sa maison. La Gemara, à la fin de Brachot, 64b, dit qu'Oved Edom Agiti eut une très nombreuse descendance. David apprit que l'Éternel avait béni la maison d'Oved Edom Agiti. Et il s'y rendit et fit transporter l'arche en la cité, il la ramène à Jérusalem, Ir David, et il fait des réjouissances et de nombreux sacrifices. Et dans les chroniques, il est dit, cet épisode est raconté avec force de détails. Alors, David décida que l'arche ne serait portée que par les Lévites, car c'était eux qu'Hachem avait choisi, Bénékéat, pour la porter. Alors ici, le texte précise bien que David ne fait plus la même erreur. Nous voyons des textes rapportés l'extraordinaire sainteté de l'arche et les prodiges qu'elle produisit. Cependant, nous constatons que son transport exigeait des hommes d'un niveau spirituel certain. La moindre erreur, le moindre oubli était immédiatement sanctionné. Nous récitons ces passages tous les jours dans notre prière, car c'est cela que nous aspirons. Le temple reconstruit, l'arche sainte à sa place et la présence de la Shekhinah parmi nous. Il est à noter que à chaque pas, il faisait un sacrifice, un taureau, des béliers, etc. À chaque 6 pas, il faisait un taureau, des béliers, des moutons, etc. Des corbanotes à chaque 6 pas. Alors, le paragraphe des Odou est tiré des chroniques, chapitre 15, des versets 8 à 22. Ce sont les louanges que David Améler dit en transportant l'arche depuis la maison d'Oved Edom à Guiti jusqu'à Ir David. Pendant tout ce voyage où l'arche a résidé sous la tente, David institua la lecture de ces... Parce que ce n'est pas David qui va construire. Donc jusqu'au moment où le temple il va être construit, alors l'arche était sous la tente, on va réciter ces versets. Comme lui, il les a récités lors du transport. La première partie était récitée le matin lors des sacrifices quotidiens, 15 versets. Et la deuxième, lors des sacrifices du soir, 14 versets. C'est pour cela que nous les récitons immédiatement après les sacrifices. Le reste des 22 versets, 22 versets en tout, sont glanés dans les psaumes. Il souligne que même sans le temple et malgré notre dispersion, Hachem est avec nous pour nous sauver de toutes les catastrophes qui risquent de s'abattre sur nous. Dans ce texte, il est mentionné 10 langages de louange pour nous rappeler les 10 plaies d'Égypte et les 10 miracles de la traversée de la mer Rouge. Pour montrer que la Hashgaha, elle se fait de manière quotidienne. Même en Galoute, Akadosh Baruch Hu, il nous préserve. Il nous fait des Nissim et Niflot à chaque instant, par le mérite des Korbanot. Donc, ces louanges-là, elles sont introduites ici. Elles font, elles, le lien entre les sacrifices du matin et les louanges. Elles sont pas des vraies louanges, puisque sont des chroniques, mais elles ont été récitées par David au moment où il transporte l'arche. Et après, ça a été institué pendant le sacrifice, pendant tout le temps où l'arche était dans la tente. Et de même, c'est pour ça qu'on répète cela. Mais en fait, elles sont pas encore des vraies louanges. Ici, le Olam, les Zmirot de David, Psukedion ne commencent pas là. Ils commencent à Hachemeler. Baruch Adonai le Olam, Amen ve Amen.